Le tournoi d'Évreux.
Vers le milieu du mois de mai, on vit des héros à la livrée de France accompagnés de sonneurs de buzines s'arrêter sur les places des villes, au carrefour des bourgades et devant l'entrée des châteaux. Les sonneurs soufflaient dans leurs longues trompettes d'où pendait une flamme fleur-de-lycée, le héros déroulait un parchemin et d'une voix forte proclamait « Or, oyez, oyez ! On fait à savoir à tout prince, seigneur, baron, chevalier et écuyer des duchés de Normandie, de Bretagne et de Bourgogne, des comtés de Marche, d'Anjou, d'Artois, de Flandre et de Champagne, et à tout autre, qu'il soit de ce royaume ou de tout autre royaume chrétien, s'ils ne sont bannis ou ennemis du roi notre sire, à qui Dieu donne bonne vie, que le jour de la Sainte Lucie, 6e de juillet, auprès de la ville d'Évreux sera un grandissime pardon d'armes et très noble tournoi, où l'on frappera de masse, de mesure et épée rabattue, en harnois propre pour ce faire, en timbre, cotte d'armes et housseaux de chevaux armoyés de nobles tournoyeurs, comme de toute ancienneté et coutume. Duquel tournoi son chef très haut et très puissant prince, mais très redouté seigneur notre sire bien-aimé Philippe, roi de France, pour appelant, et le sire Jean de Luxembourg, roi de Bohême, pour défendant. Et pour ce faire, on de rechef à savoir à tout prince, seigneur, baron, chevalier et écuyer des marches de sudite, et autres des quelconques nations qu'ils soient, qui auront vouloir et désir de tournoyer pour acquérir honneur, qu'ils portent de petits écussons, que si présentement donneraient à ce qu'on reconnaissasse qu'ils sont des tournoyeurs, et pour ce en demande qui en voudra avoir. Et au dit tournoi, il y aura de nobles et riches prix par les dames et damoiselles données. Outre plus, j'annonce à tout prince, baron, chevalier et écuyer qui avait l'intention de tournoyer, que vous êtes tenu de vous rendre au dit lieu d'Évreux et prendre vos auberges le 4e jour avant le dit tournoi pour faire de vos blasons fenêtres et montrer vos pavois sous peine de ne pas être reçus au dit tournoi. Et ceci, il est fait à savoir de par mes seigneurs les juges diseurs et me le pardonnez s'il vous plaît. » Les trompettes sonnaient à nouveau, et les gamins jusqu'à la sortie du bourg faisaient en courant escorte aux héros qui s'en allaient plus loin porter la nouvelle. Les badauds, avant de se disperser, disaient « Cela va encore nous coûter cher si notre châtelain se veut rendre à ce tournoi crié. Il va partir avec sa dame et toute sa maisonnée, toujours pour eux les amusailles et pour nous les tailles à payer. » Mais plus d'un pensait en même temps « Si le seigneur des fois voulait emmener mon aîné comme goujat d'écurie, il y aurait sûrement une bonne bourse à gagner et peut-être quelque emploi d'avenir. J'en parlerai au chanoine pour qu'il recommande mon Gaston. » Pour 6 semaines, le tournoi allait être la grande affaire et l'unique préoccupation des châteaux. Les adolescents rêvaient d'étonner le monde de leurs premiers exploits. « Tu es trop jeune encore, une autre année, les occasions ne manqueront pas, » répondaient les parents. « Mais le fils de nos voisins de Chambray, qui a mon âge, va bien s'y rendre, lui ?»« Si le sire de Chambray a raison perdue, ou des deniers à perdre, cela le regarde !» Les vieillards rabâchaient leurs souvenirs. À les entendre, on eût cru qu'en leur temps, les hommes étaient plus forts, les armes plus lourdes, les chevaux plus rapides.
« Au tournoi de Kenilworth, que donna le Lord Mortimer de Shirk, l'oncle à celui qu'on pendit à Londres cet hiver.
Au tournoi du Condé sur Escaut, chez Monseigneur Jean d'Aven, le père au comte de Hainaut l'actuel. »
On empruntait sur la moisson prochaine, sur les coupes de bois. On portait sa vaisselle d'argent chez les plus proches lombards, afin de la transformer en plumes pour le home du seigneur, en étoffe de sandales ou de camocasse pour les robes de madame, en caparaçon pour les chevaux. Les hypocrites feignaient de se plaindre.
« Ah, que de dépenses, que de soucis, alors qu'il ferait si bon à demeurer chez soi. Mais nous ne pouvons nous dispenser de paraître à ce tournoi pour l'honneur de notre maison. Si le roi notre sire a envoyé ses héros à la porte de notre manoir, nous le fâcherions en n'y allant pas. »
Partout, on tirait l'aiguille, on battait le fer, on cousait le tissu de maille sur le cuir des aubergeons, on entraînait les chevaux et on s'entraînait soi-même dans les vergers dont les oiseaux s'enfuyaient effrayés par ses charges, ses chocs de lance et grands cliquetis d'épée. Les petits barons mettaient 3 heures à essayer leur cervelière. Pour se faire la main, les châtelains organisaient des tournois locaux où les hommes d'âge, fronçant le sourcil, gonflant les joues, jugeaient des coups en regardant leurs cadets s'éborgner. Après quoi, l'on s'attablait pour dîner longuement, baffrant, buvant et discutant. Ces jeux guerriers, de baronnie à baronnie, finissaient par être aussi coûteux que de vraies campagnes. Enfin, on se mettait en route. Le grand-père avait décidé à la dernière minute d'être du voyage, et le fils de 14 ans avait eu gain de cause. Il servirait le petit écuyer. Les destriers d'armes, qu'il ne fallait point fatiguer, étaient conduits en main, Les coffres aux robes et aux cuirasses étaient chargés sur des mulets. Les goujats de service traînaient les pieds dans la poussière. On logeait aux hôtelleries des couvents ou bien chez quelques parents dont le manoir se trouvait sur le chemin et qui lui-même se rendait au tournoi. Un lourd souper encore, copieusement arrosé, et à l'aube, crevant, on repartait tous ensemble. Ainsi, de halte en halte, les troupes grossissaient jusqu'à la rencontre en formidable appareil du cirque-comte dont on était le vassal. On lui baisait la main, quelques banalités s'échangeaient qui seraient longuement commentées, les dames faisaient sortir des coffres une de leurs robes nouvelles, et l'on s'agrégeait à la suite du comte, déjà longue d'une demi-lieue, et toute bannière flottante sous le soleil de début d'été. De fausses armées équipées de lances épointées, d'épées sans tranchant et de masses sans poids franchissaient alors la Seine, l'Eure, la Rille, ou montaient de la Loire pour se rendre à une fausse guerre où rien n'était sérieux sinon les vanités. Dès 8 jours avant le tournoi, il ne restait plus chambre ou soupente allouée en toute la ville d'Évreux. Le roi de France tenait sa cour dans la plus grande abbaye, et le roi de Bohême, en l'honneur duquel les fêtes étaient données, logeait chez le comte d'Évreux, roi de Navarre. Singulier prince que ce Jean de Luxembourg, roi de Bohême, parfaitement impécunieux, couvert de plus de dettes que de terres, qui vivait au crochet du trésor de France, mais n'eût pas imaginé de paraître en moins grand équipage que l'hôte dont il tirait ses ressources. Luxembourg avait près de 40 ans, et en paraissait 30. On le reconnaissait à sa belle barbe châtaine, soyeuse et déployée, à sa tête rieuse et altière, à ses mains avenantes, toujours tendues. C'était un prodige de vivacité, de force, d'audace, de gaieté, de bêtises aussi. D'une stature voisine de celle de Philippe VI, il était vraiment magnifique et offrait en tout point la figure d'un roi tel que l'imagination populaire pouvait se la représenter. Il savait se faire aimer de tous, des princes comme du peuple, universellement. Il était même parvenu à être l'ami à la fois du pape Jean XXII et de l'empereur Louis de Bavière, ses deux adversaires irréductibles. Merveilleuse réussite pour un imbécile, car chacun là-dessus s'accordait également, Jean de Luxembourg était aussi stupide qu'il était séduisant.